Vous êtes sur RTL.
5h est l'heure de votre premier journal. À la une ce matin, cette interview exclusive d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est livré pendant plus de 45 minutes à William Galibert, un président plus que jamais déterminé à mi-mandat. Sur la réforme des retraites notamment, il promet d'aller jusqu'au bout malgré les menaces de blocage. Vous l'entendrez dans un instant. Emmanuel Macron qui évoque un coup dur porté à l'État islamique après la mort de son fondateur El-Baghdadi. Mais le président français en met en garde. Il ne s'agit là, dit-il, que d'une étape. Dans ce journal, on parlera aussi vacances, et oui, ça continue pour un certain nombre d'entre vous. On vous emmène ce matin en Normandie. Les plages du débarquement, vous le verrez, ne désemplissent pas. Et puis du foot, et sale soirée hier soir pour Marseille, l'OM battu, étrié même par le PSG. Les Parisiens s'imposent 4-0 et ont désormais 8 points d'avance au classement. Le temps, Marina, de météo d'ici 5h30.
Et 14 degrés cet après-midi à Agen dans le Maine-et-Loire, sous un ciel couvert avec des averses.
RTL Matin.
Et c'est donc un président plus que jamais déterminé qui accorde ce matin un long entretien à RTL, interview exclusive à mi-mandat et réalisée dans l'avion qui le ramenait de la Réunion. Emmanuel Macron dit vouloir poursuivre les réformes, à commencer par celle des retraites. Les menaces de blocage, dit-il, n'y changeront rien.
Moi, je comprends tout à fait quelqu'un qui est à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans et qui proteste. Et donc il faut qu'on trouve une solution intelligente. Il est rentré avec un pacte avec la nation. On lui a dit, vous allez travailler dans cette entreprise, voilà vos droits. Est-ce qu'on peut tout bousculer du jour au lendemain? Non. C'est pour ça que je dis, il faut donner du temps à la transition. Mais il ne faut pas que nos compatriotes qui travaillent dans des services essentiels considèrent que leur mobilisation soit de nature à bloquer des familles ou des travailleurs. On les entendra. Moi, je ne ferai pas une réforme qui nie ce que sont les droits acquis d'individus. Mais je leur dis en conscience, vous pouvez pas sincèrement et raisonnablement me dire on va embaucher avec les mêmes règles. C'est pas possible. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai, peut-être que ça me rendra impopulaire. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance.
On les entendra, dit-il, à propos de ceux qui menacent de bloquer, hein, notamment les transports le 5 décembre, mais j'irai jusqu'au bout. Emmanuel Macron au micro RTL de William Galibert. Et vous, qu'en pensez-vous? Le chef de l'État a-t-il raison de vouloir maintenir le cap, quitte à affronter un nouveau mouvement social? On attend ce matin vos réactions au 32-10. Cet entretien d'Emmanuel Macron, vous pourrez le découvrir hein, tout au long de la matinée sur RTL. Le président y évoque aussi la question de la laïcité et il l'annonce, il recevra dès ce matin les représentants du Conseil français du culte musulman. Pas question en revanche de prendre la parole tout de suite sur le sujet, hein, comme certains lui demandent. Il promet des mesures d'ici à la fin de l'année, à la fois pour lutter contre le communautarisme, mais aussi pour que les musulmans puissent vivre tranquillement leur religion en respectant, je cite, les lois de la République. Emmanuel Macron qui évoque un coup porté à l'État islamique après la mort de son chef et fondateur Al-Baghdadi, mais le président met en garde, il ne s'agit là que d'une étape. Al-Baghdadi tué lors d'une opération menée par les forces spéciales américaines dans le nord de la Syrie, c'est le fruit, Philippe Corbet, d'un long, très long travail. Hein.
Oui, dès juillet, les Américains ont localisé le secteur où se cachait Al-Baghdadi. Lorsque l'une de ses femmes et un messager ont été arrêtés et interrogés, ils ont confirmé ce que supposaient déjà les services américains, que le fondateur de Daesh se cachait en fait près d'Idlib, donc très à l'ouest, près de la frontière turque et de la Méditerranée, dans un secteur plutôt dominé par Al-Qaïda. Grâce à ces informations, fournies notamment par les services irakiens, plus l'aide des services kurdes, des drones et des espions sur place, la CIA a pu repérer précisément l'enceinte où se cachait Al-Baghdadi et comprendre que des civils y servaient de bouclier. Il était trop dangereux de le prendre d'assaut, donc il a été décidé d'attendre qu'Al-Baghdadi change de lieu pour frapper le convoi. Pendant des semaines, des mois, les forces américaines ont attendu, mais avec la décision du président Trump de retirer les troupes de Syrie, le Pentagone a préféré accélérer en sachant qu'après le retrait, l'opération serait encore beaucoup plus dangereuse.
Récit signé Philippe Corbet, notre correspondant aux États-Unis, qu'on retrouvera comme chaque matin tout à l'heure à 5h40, un air d'Amérique, et on reviendra sur ce décès. Victoire d'abord symbolique pour le président américain, symbolique mais essentielle car elle pourrait l'aider, Philippe nous le dira, dans sa réélection. Et puis à 6h15, je vous le rappelle, c'est Mohamed Sifaoui, spécialiste du terrorisme, qui sera notre invité. On reviendra avec lui sur les conséquences que peut avoir ce décès. L'État islamique peut-il ou non perdurer sans Al-Baghdadi? Faut-il craindre des représailles? Peut-être ici en France, on lui posera la question. Ce sera donc à 6h15. Dans l'actualité également ce matin, ce nouveau témoignage, un témoignage à charge contre ce chirurgien suspendu à Grenoble. L'épouse d'un de ses patients l'accuse d'avoir tué son mari, Serge Puyot.
Quelques mois avant sa mort, Christophe Fuselier nous avait reçus chez lui pour nous dire ses souffrances, sa colère,
Après son opération du dos qu'il estimait ratée, il avait commencé par parler de cette jambe qu'il avait perdue.
Il a fallu amputer malheureusement. J'ai été amputé en dessous du genou à cause des infections à répétition. C'est dur. J'ai vécu un calvaire pendant des années. Beaucoup de morphine et puis d'autres comprimés pour la douleur. Très dur. Des fois, c'est vrai que j'en ai marre aussi de la vie. Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui au chirurgien?
Voilà, qu'il arrête d'opérer et qu'il arrête de briser des vies.
Après le décès de son mari, Cathy, l'épouse de Christophe, va déposer plainte pour homicide involontaire afin que la justice détermine les responsabilités dans cette affaire.
Depuis cette opération du dos, on est arrivé là aujourd'hui. C'est dur à comprendre. Je me battrai coûte que coûte parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Obtenir des réponses. Il faut que les choses soient établies clairement. Je serai là, je continuerai à me battre. Il me donnera la force qu'il faut et je serai là.
Le reportage de Serge Puyot pour RTL. Attention à présent, si vous devez prendre le train aujourd'hui, trafic très très perturbé hein, sur les lignes atlantiques en raison d'un mouvement de grève du personnel de maintenance. Les cheminots ont stressé le travail ce week-end sans préavis. Résultat, seuls 3 trains sur 10 devraient circuler aujourd'hui entre Paris et l'ouest de la France. Pensez à vous renseigner. Ça va mieux, en revanche, a priori, dans le sud-est. La circulation des TER, qui a été très perturbée hier en raison de mouvements sociaux, devrait revenir à la normale pour ce matin. C'est en tout cas ce qu'annonce la direction. Des difficultés qui interviennent en pleine vacances scolaires. Et oui, il reste encore une semaine, vacances que certains ont choisi de passer en Normandie, sur les plages du débarquement notamment. Alors, il y a eu beaucoup de monde cet été avec les cérémonies du 75e anniversaire du D-Day. Eh bien, ça continue, comme l'a constaté pour RTL Julien Caillard.
Il faut bien le reconnaître, malgré des températures douces pour la saison sur la plage ici.
Peu de chance que j'aille me baigner, ça c'est sûr.
Qu'importe, les vacanciers sont bien là.
On vient se reposer, on vient s'oxygéner, on vient pour respirer un petit peu le bon air, sortir un petit peu de la vie parisienne, profiter des spécialités normandes, la coquille Saint-Jacques, donc on en profite pleinement.
Ces Saint-Jacques désormais disponibles attirent, tout comme le D-Day, l'effet 75e anniversaire ne se dément pas 4 mois et demi après les cérémonies.
L'atmosphère est impressionnante, ça fait partie de notre histoire. Moi j'étais venue quand j'étais au collège. Donc voilà, je suis une quadragénaire. Je voulais que notre fille vienne aussi.
C'est intéressant, l'histoire de la guerre. Comme ça, j'ai appris des choses.
Les vacanciers sont ravis, les professionnels aussi. La saison s'étire. Didier Lorca, le directeur de l'office de tourisme.
C'est une période encore de très forte activité. Pour qu'une saison touristique soit gagnée, il faut que les ailes de saison soient bonnes, c'est-à-dire le début de la saison et la fin de la saison. Parce que vous l'imaginez, les mois de juillet et août ne sont pas très compliqués à remplir. Donc oui, les vacances de la Toussaint, c'est un vrai enjeu.
Et il reste une semaine ici pour parfaire cette année exceptionnelle.
Un reportage de Julien Caillard sur la plage d'Aromanche. C'est pas mal ce matin en Normandie, Marina.
Oui, côté ciel, c'est vrai que ce sera un temps sec, plutôt agréable, même s'il est voilé. Mais alors, par contre, il fait froid ce matin.
On se couvre.
On se couvre ce matin, puis on sera plus dans les 10-12 cet après-midi. Mais bon, pas de pluie.
Bon, allez, c'est déjà ça. On va partir à présent dans le sud-ouest. On vous parlait il y a quelques semaines du jambon du G7. Eh bien, figurez-vous que le vin servi lors du sommet qui s'est tenu fin août à Biarritz a lui aussi été boosté par l'événement. Depuis quelques semaines, le couple de vignerons de Tursan voit ses ventes grimper en flèche. Mais les deux viticulteurs gardent toutefois la tête froide. C'est Un jour en France et c'est signé Denis Grange.
Oui, assise derrière son bureau, au rez-de-chaussée de sa belle maison blanche, Marie-Laure a un grand sourire.
Les ventes ont augmenté. On reçoit des mails, on reçoit des SMS, des mails de commandes, de demandes de tarifs, et ça aboutit.
À quelques pas de là, dans la cave, David détaille les caractéristiques du vin qu'ont dégusté Donald Trump et Emmanuel Macron.
C'est un vin dans la souplesse, qui est relativement jeune. C'est sur le fruit, le bois, et c'est un vin qui est très, très plaisant.
Avec mon époux, on est des personnes très simples. C'est vrai qu'on a une grande fierté, et je pense que tout notre entourage est fier de nous. Et c'est vrai qu'on reste quand même les pieds sur terre parce qu'on n'a pas ce défaut ou cette qualité d'être orgueilleux, mais l'orgueil on se le garde à l'intérieur.
Avec en plus de grandes chances que le vin de David et Marie-Laure soit à nouveau servi pour de très grandes occasions. Suivez mon regard.
J'ai contact avec l'Élysée, effectivement.
Mais vous n'avez pas encore eu de discussion sur votre vin avec Emmanuel Macron?
Non, j'en suis pas encore à ce point-là. Peut-être que ça viendra, mais pas pour le moment. On verra. Je vais pas tout vous dévoiler, comme ça vous reviendrez me voir.
Un jour en France, signé Denis Grandjean. Un petit mot de foot. Le PSG remporte le fameux classique 4-0 hier soir face à Marseille. C'est la plus large victoire des Parisiens au Parc des Princes contre l'OM depuis 1978. Et oui, un peu plus tôt, Rennes avait battu Toulouse. Victoire 3-2. Saint-Etienne et Amiens ont fait match nul de partout au classement. Le PSG, bien sûr, toujours leader ce matin avec 8 points d'avance désormais sur son dauphin Nantes. Lille, sachez-le, est troisième à égalité de points avec Reims, quatrième.